Musique juive d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission radiophonique de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, notre émission sera consacrée à Arnold Schoenberg, un compositeur hors norme, dont une partie de l'œuvre est d'ailleurs marquée, fortement marquée, par son appartenance au judaïsme. Et à cette occasion, on signalera d'ailleurs que le 27 septembre 2016 débute au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris une exposition donc consacrée à Arnold Schoenberg. On connaît certes le compositeur et le théoricien de la musique, mais on ignore que Schoenberg a également été peintre. Et c'est d'ailleurs cette double casquette qui lui a valu les foudres des dignitaires nazis qui le considéraient comme l'expression même de l'art dégénéré. Ses toiles l'attestent en effet, tout comme sa musique, d'un expressionnisme plutôt violent. Et autour de cette exposition Schoenberg auront lieu trois concerts et deux rencontres pour lesquelles vous trouverez tous les détails sur le site du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, www.maj.org. Et pour cette découverte de Schoenberg, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir dans ce studio une des protagonistes, on va dire les choses comme ça, de ces rencontres. Bonsoir Daniel Cohen-Lévinas.
Bonsoir Hervé Rotten.
Alors, vous êtes professeur de philosophie, de musicologie, responsable du Collège des études juives et de philosophie contemporaine au Centre Emmanuel Lévinas. Vous êtes chercheur associé également aux archives UCERL de l'ENS CNRS de Paris. Je suis absolument ravi de vous accueillir pour la première fois dans cette émission et vous allez nous éclairer donc sur ce monument, cet homme monument, on pourrait presque dire, qui s'appelle Arnold Schoenberg. Vous lui avez consacré, je crois, plusieurs ouvrages. Je ne les citerai pas tous, mais notamment Le siècle de Schoenberg, paru chez Hermann en 2010. Et vous publiez en 2017 un ouvrage qui s'intitulera, je crois, L'irreprésentable Schoenberg, la passion selon Moïse. Je crois que c'est un titre provisoire pour le moment. Voilà. Et surtout, on vous retrouvera le 7 décembre 2016. Donc, au MAJ, vous participez à une table ronde intitulée Judaïsme, identité et politique chez Schoenberg. Au cours de cette table ronde sera notamment abordé le thème des rapports du compositeur à son identité juive et son incidence sur sa production musicale. Alors justement, Daniel Cohen-Lévinas, pourriez-vous nous dire quelques mots des rapports de Schoenberg à son identité juive ? Je crois que c'était des rapports assez compliqués.
Alors, dès qu'on touche à la question de l'identité, et de l'identité juive en particulier, on tombe sur un massif éminemment complexe. Concernant Schoenberg, se rajoute à cette complexité naturellement la période à laquelle il a vécu, hein, le fait qu'il est autrichien, qu'il est né à Vienne, hein, qu'il est né en 1874 dans une ville dont on connaît bien sûr son rapport à l'antisémitisme, hein, qui est un antisémitisme extrêmement ancré, auquel n'aura pas échappé Schoenberg. Il a vécu plusieurs épisodes antisémites. Se rajoute bien sûr d'une certaine manière le fait qu'il a vécu les deux Grande Guerre mondiale, et la complexité dont je veux parler, c'est qu'il a cru, comme Gustav Mahler, comme beaucoup de juifs autrichiens et allemands, que le processus, j'allais dire, progressiste ou d'assimilation avait réussi. Et que le judaïsme, au fond, était vécu comme une identité culturelle, c'est-à-dire qui apportait son élément fécond à notre civilisation, à notre langue et à notre civilisation, mais qu'en tant que fait religieux ou l'histoire d'un peuple, c'était en quelque sorte révolu. Il est converti en 1898, il se convertit au protestantisme. C'était la religion qu'adoptaient en quelque sorte les juifs qui se convertissaient, plus proche d'un certain judaïsme de l'Ancien Testament. Donc en 1898, un an après l'ouvrage de Theodor Herzl, Der Judenstaat, l'État juif et non pas l'État des Juifs. Et donc cette conversion va s'accompagner d'un réveil de ce que vous appelez à très juste titre l'identité, son identité juive. Et ce réveil, au fond, il va commencer assez tôt. Sans doute déjà avec l'écriture de l'échelle de Jacob, son oratorio qui va commencer dès 1914, donc dès le début de la Première Guerre mondiale, qui n'est pas lié au texte de l'Ancien Testament, contrairement à Moïse et Aaron, qui est une sorte de d'idiosyncratie que lui-même rédige à partir de trois écrivains très connus et très importants. Mais tout de même, on voit déjà l'horizon de l'étude et de l'intérêt porté à ce que la Bible hébraïque peut dire à cette époque-là à Arnold Schoenberg. 1921, il est l'objet d'une attaque antisémite. 1923, il rompt avec Kandinsky sur la base d'un antisémitisme avéré et déclaré de Kandinsky. Il écrit une lettre de rupture absolument magnifique en disant qu'il comprend qu'il existe un noyau dur irréductible qui s'appelle être juif et qu'il est juif et que peut-être être juif, ça signifie même ne plus être un homme dans une Europe où on admet une catégorie des hommes qui s'appellent des antisémites, ce qui signifie que peut-être que être juif. Il va jusqu'à évoquer la possibilité qu'un juif n'est même plus considéré comme un homme. Alors lui, il est juif. On est en 1923 et en 1924, il se marie avec, c'est le second mariage, premier mariage avec la fille de Zemlinsky, qui a été son unique professeur de composition. Et en 1924, il se marie avec la sœur de Kolisch, du violoniste Kolisch. Il se marie à Mödling et il fait bénir son mariage par le prêtre luthérien du temple de Mödling. Donc il est vraiment dans une complexité, dans ce qu'on appellerait un indémêlable, c'est-à-dire il continue à s'afficher comme protestant d'un point de vue, j'allais quasiment dire social, culturel, et son identité profonde, celle par laquelle il est taraudé et pour laquelle il va vivre, parce que Schoenberg est quelqu'un qui va envisager même d'arrêter la composition musicale pour se consacrer au sauvetage des Juifs d'Europe, dont il va comprendre très tôt qu'ils sont extrêmement menacés. Je voudrais vous lire peut-être un extrait de cette lettre envoyée à Kandinsky en 1923, alors qu'il n'est pas revenu à la religion de ses pères, parce qu'en 1933, en effet, là, il revient au judaïsme, il quitte l'Allemagne nazie, il quitte Berlin, il prévoit d'immigrer aux États-Unis, mais il s'arrête à Paris et à la grande synagogue
synagogue Copernic.
Copernic. En fait. Il, avec Marc Chagall comme témoin, il va là épouser à nouveau la religion de ses pères. La lettre de Kandinsky, elle dit, je crois, le fond de ce que peut représenter la complexité de l'identité juive d'un Arnold Schoenberg. La voici, elle est datée du 20 avril 1923. Je lis juste un extrait. « Ce que j'ai été forcé d'apprendre l'année dernière, je l'ai enfin compris et je ne l'oublierai jamais. À savoir que je ne suis pas un Allemand, ni un Européen. Pas même un humain, peut-être. En tout cas, les Européens me préfèrent la pire de leur espèce. » Il veut parler des antisémites. « Mais que je suis juif. J'ai entendu dire que même un Kandinsky ne voyait dans les actions des juifs que ce qu'il y a de mauvais et dans leurs mauvaises actions que ce qu'il y a de juif. Et là, je renonce à tout espoir de compréhension. Et là, je renonce à tout espoir de compréhension. C'était un rêve. Nous sommes deux types d'hommes, à tout jamais. Oui, là, je pense que 1923 va marquer un tournant, mais il faudra attendre qu'il soit rattrapé par l'histoire. C'est-à-dire que... Exactement.
Alors, on va, comme vous le savez, le principe de cette émission est d'intercaler des morceaux de musique régulièrement, et ça nous permet de découvrir l'œuvre de Schoenberg. Et c'est absolument passionnant ce que vous nous dites. Donc, on va tout de suite peut-être écouter un premier extrait de cette échelle de Jacob dont vous avez parlé et qu'on commentera après. Donc, l'échelle de Jacob interprétée ici par l'Orchestre symphonique de Berlin. Nous venons d'entendre le début de l'échelle de Jacob, un oratorio de Arnold Schoenberg, écrit pour soliste, un oratorio à l'histoire bien singulière d'ailleurs, puisqu'il était inachevé en fait. Vous l'avez dit, on va en reparler, il a été commencé à être élaboré en 1911, Schoenberg a rédigé le livret entre les années 14 et 1915, livre est publié d'ailleurs en 1917, mais il va travailler tout au long de sa vie. Je pense que vous allez nous en dire quelques mots. Et en fait, il le laissera inachevé, je crois. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu, en fait, je crois que c'est à la demande de sa femme d'ailleurs que cet oratorio sera achevé. Il n'y avait que 700 mesures décrites. Alors, cet oratorio.
La partition a été publiée tardivement. Ça posait pas mal de problèmes, et elle a été publiée, la partition, en 1974. Hein. Donc, oui. Schoenberg est mort en 1951. Alors, il y a un mystère de l'inachèvement chez Schoenberg, mais aussi, on pourrait dire qu'il y a un mystère de l'inachèvement dans les sculptures sublimes de Rodin, hein, qui fait partie de la grandeur de l'œuvre, hein. Mais qui est aussi le symptôme d'un double problème. Le symptôme de la difficulté, lorsque l'on est, encore l'échelle de Jacob est une œuvre intermédiaire, hein, d'un point de vue langage, on quitte en quelque sorte la libre atonalité, où Schoenberg détestait cette expression, il parlait plutôt de tonalité élargie. Donc, dans les années... le livret, en effet, a été élaboré entre 1914 et 1915. Hein. Il a renoncé à trouver un texte qui lui convenait. Et il rédige un texte à partir de trois ouvrages, à partir du livre de Strindberg, hein, Le combat de Jacob, à partir des textes de Swedenborg, qui était très important à l'époque, parce qu'il était l'auteur, d'une certaine manière, qui exprimait dans sa littérature aussi toute cette sensibilité et cette perméabilité à l'esprit mystique, théosophique, qui lui venait aussi, par ailleurs, de sa fréquentation avec Kandinsky, dont il était très proche, hein, puisque Kandinsky a entendu donc son deuxième quatuor à cordes et a pris sa plume pour commencer une correspondance importante avec Schoenberg. Et puis le troisième auteur, c'est Balzac. Le Séraphita de Balzac. Donc trois auteurs radicalement différents. Il rédige non pas la musique 1914-1915, mais le texte. Il est un peu comme au fond dans la tradition wagnérienne, que le compositeur est aussi celui qui, dans cette espèce d'utopie de Gesamtkunstwerk, va être l'auteur du livret, hein, c'est-à-dire son propre dramaturge. Hein. Il faut voir aussi ce qui se passe du côté de la tradition et pas simplement du côté de cette avancée dans la modernité. Alors, oui, c'est inachevé parce qu'il se confronte précisément un entre-deux entre un adieu à la tradition, donc à la tonalité, hein, c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus efficace comme système pour porter une dramaturgie, c'est-à-dire une grande forme, hein, comme l'oratorio.
Juste préciser pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout la musique, simplement leur dire que bon, le système tonal, en simplifiant l'extrême, c'est le système que vous connaissez avec la gamme de Do majeur, etc., qui est utilisé avec une hiérarchie, j'allais dire, elle est régie par des règles très très strictes, c'est-à-dire chaque note ayant un poids bien défini, et il y a une sorte de... voilà, c'est une...
C'est-à-dire, ce qu'on peut dire aux auditeurs, sans rentrer dans les détails techniques, c'est que c'est surtout un langage musical qui a pour structure des lois assez directionnelles, c'est-à-dire des enchaînements d'accords qui n'arrivent pas de manière impunément, hein, qui ont une logique acoustique, et cette logique, elle dessine, hein, les linéaments d'une trajectoire, d'une directionnalité, et par conséquent d'un parcours qui est celui d'un langage, hein, donc c'est-à-dire et d'un parcours qui est de manière implicite celui d'une narrativité. Donc il n'y aurait pas eu l'opéra, il n'y aura pas eu d'histoire d'oratorio, les grandes passions de Bach, sans le système tonal qui peut porter de manière sous-jacente cette narration explicite qu'est le texte, mais précisément parce que les structures sous-jacentes aux lois harmoniques sont celles également d'une directionnalité. Et Schoenberg mettant à mal ce langage tonal, il met nécessairement à mal le fait de pouvoir porter, de trouver un langage qui dorénavant puisse porter la grande forme. Le développement, les grandes symphonies, elles sont nées avec le langage tonal. Une fois que, d'une certaine manière, vous poussez ce langage jusque dans ses retranchements, ce que Wagner avait déjà fait avec le chromatisme, mais que vous la renversez et que, contrairement à la tonalité, le langage dodécaphonique prévoit une indépendance, une absence de hiérarchie entre les paramètres du son, c'est-à-dire notre culture musicale est nourrie de l'idée de la mélodie et du rythme, si vous voulez. Et là, d'une certaine manière, de créer un climat indifférencié entre tous les paramètres, cela, évidemment, pose des problèmes par rapport à l'idée de porter une histoire, un récit, une narration, que ce soit l'oratorio ou que ce soit l'opéra. Et je pense qu'une des raisons de l'inachèvement vient de la difficulté, précisément, à trouver des formes. Alors ici, ce qui est magnifique, et bon, c'est encore un opéra qui vient de la tradition, qui est encore dans le climat expressionniste, et il trouve le développement en variation. Donc la variation va se substituer aux grandes formes tonales.
Alors, on vous écouterait pendant des heures, mais il faut qu'on avance parce que l'émission passe très vite. Et vous avez parlé tout à l'heure d'une autre œuvre de Schoenberg qui marque son attachement au judaïsme, ou tout au moins au texte biblique. Il s'agit donc de son quatrième opéra, Moses und Aaron, Moïse et Aaron en allemand. Ce qui est assez amusant, c'est que...
Quatrième opéra, vous avez dit, excusez-moi.
Oui, c'est pas son quatrième opéra ?
Non.
Alors, mes sources sont mauvaises. Alors, c'est son...
On pourrait dire que c'est son... L'échelle de Jacob et Moïse et Aaron, il n'y a pas d'autres œuvres lyriques de cette taille-là.
Très bien. Alors, mea culpa. Et donc, dans cet opéra, le titre de son opéra, Schoenberg a éliminé d'ailleurs le second A de Aaron parce qu'il était assez superstitieux, il ne voulait pas se retrouver avec un titre avec 13 lettres. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, je vous propose d'écouter le début de cet opéra avant de parler plus longuement.
Väter, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der du ihren Gedanken in mir wieder erweckt hast, mein Gott, nötige mich nicht, ihn zu verkünden. Ich bin alt, lass mich in Ruhe meine Schafe weiden.
Nous venons d'entendre entendre le début donc, de l'opéra Moïse et Aaron, interprété ici par le chœur et l'orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Georg Solti, une version de 1984, très belle. Alors, je vais vous redonner tout de suite la parole, Daniel Cohen-Lévinas. Moïse et Aaron est considéré comme une œuvre majeure donc, de Schoenberg. Pourquoi, et pour reprendre un petit peu la parabole de Pessard, en quoi cette œuvre est-elle différente des autres ?
Bien, parce que, sans doute, hein, je le dirais d'emblée, sans précaution, ou en tout cas je peux expliciter dans un second temps, je crois en effet que Moïse est un peu la figure d'identification hein, de Schoenberg. Que la question de la grande forme opératique, ou en tout cas lyrique, l'accompagne depuis ses débuts. Alors c'est vrai qu'il y a eu, et alors, ça n'en fait pas un opéra, mais ce sont des monodrames. Il y a eu Erwartung, 1909, La Tente, le fameux Pierrot Lunaire, donc monodrame pour ensemble instrumental et une voix. C'est là qu'il stabilise, il trouve le Sprechgesang, 1912. Donc, l'échelle de Jacob, qui est objectivement un oratorio nommé comme tel, qui va courir quatre décennies, disons 1914 jusqu'à 1945, hein, donc, la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc le début de la Première, la fin de la Seconde Guerre mondiale, il interrompt l'échelle de Jacob pour travailler 1926, hein, Der biblische Weg, le chemin biblique, où là, il ne va pas chercher des textes de romanciers, d'écrivains, Balzac, Strindberg, Swedenborg. Il va chercher directement l'Exode, c'est-à-dire la Bible. Et 1926, c'est une première étape. Der biblische Weg, c'est une pièce de théâtre, donc il n'y a pas de musique. Mais Der biblische Weg va se transformer progressivement au début des années 30 en Moïse et Aaron, c'est-à-dire ce qu'il considère, lui, comme étant un opéra. Quelqu'un comme Adorno va dire non, c'est un oratorio. Ça ne peut pas être porté à la représentation. Et en effet, là, je crois qu'il y a cette espèce de chiasme entre son amour de la tradition, Brahms, Wagner, c'est-à-dire comment aujourd'hui penser la question de l'opéra, alors que le système, le langage qui portait cette grande forme a été en 1931, au moment vraiment où il compose Moïse et Aaron, qui va courir sur son établi jusqu'à la fin de sa vie, 1951. Il a encore la partition du troisième acte de Moïse et Aaron sur sa table de composition, qui reste lui aussi inachevée. Nous avons le texte, mais nous n'avons pas la musique. Hein. L'opéra mis en musique se termine à la fin du deuxième acte par O, c'est-à-dire Moïse qui dit, il fait dire à Moïse, O, parole qui me manque. Alors, je crois là que nous avons encore une fois ce chiasme entre cette rencontre, ce réveil, cette révélation à son identité juive, son appartenance à l'histoire du peuple juif qui est très, très, très importante. Il faut quand même souligner aussi que dans le paysage culturel auquel il a appartenu, il y avait la personnalité très importante de Theodor Herzl, juif hongrois, qui lui-même était dans une famille progressiste. Il ne pensait pas du tout, du tout, contrairement à ce que d'aucuns on peut dire. Hein, il ne travaillait pas à cette question du retour à une terre, un abri hein, pour le peuple juif, tel qu'il en parle lui-même. Qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, qui a été un déclencheur pour Theodor Herzl, que par conséquent, ce terreau du moment judéo-allemand a été capital et qu'il a joué un rôle de chiasme avec la tradition musicale qui, elle, n'impliquait absolument pas la question de l'identité et encore moins celle de l'identité juive. Voilà.
Alors est-ce qu'on ne peut pas dire, parce que ce tiraillement, cette ambivalence de Schoenberg entre cette appartenance au judaïsme et en même temps cette volonté de s'intégrer, ne découle pas de son enfance, parce qu'il avait, je crois, une mère qui était plutôt religieuse et un père qui était libre penseur. Donc il a été tiraillé un petit peu entre ces... Alors sans faire de la psychologie de bas étage.
Je pense que c'est pour ça que j'insiste sur ce moment judéo-allemand dont il fait partie résolument. Hein. C'est-à-dire, on peut discuter sur, l'aridité de ses œuvres. Hein. Écouter Moïse et Aaron du début jusqu'à la fin, c'est aussi une épreuve, mais parce que c'est une épreuve, c'est une traversée existentielle. C'est la réflexion d'un homme qui, jusqu'au bout, va essayer de comprendre comment, au fond, la question de la révélation biblique, antérieure au christianisme et à notre civilisation judéo-chrétienne, comment cette révélation biblique, cette révélation divine, hein, c'est-à-dire ce rapport à la transcendance, peut être l'objet d'une réflexion esthétique et en particulier musicale. C'est un abîme qui s'ouvre, donc ça va prendre des années. Mais il appartient, il est de la génération de Kafka, qui lui aussi est tiraillé. Alors lui, Kafka, il vient d'un milieu totalement émancipé. Il va même reprocher à son père de ne rien lui avoir transmis. Il est de la génération d'un Gershon Scholem, qui se pose la question, donc grand spécialiste de mystique juive. Donc là, le mysticisme de Schoenberg, on peut parler d'un mysticisme de Schoenberg, hein, beaucoup plus que d'une religion, que d'une pratique religieuse. Donc la question de Scholem, c'est comment sauver le judaïsme de ce processus d'assimilation où, au fond, le judaïsme ne serait plus qu'un folklore parmi d'autres.
Alors justement, on va écouter un second extrait de cet opéra Moïse et Aaron qui rebondit exactement sur ce que vous venez de dire. Il s'agit de l'épisode du veau d'or. On voit que le peuple hébreu est tiraillé entre justement cette appartenance au judaïsme à travers ce Dieu unique, cette reconnaissance et de cette, j'allais dire, ce retour à l'idolâtrie. Et donc un bref extrait donc de l'épisode du veau d'or, acte 2, scène 3. Un extrait de l'épisode du veau d'or, donc de Moïse et Aaron, d'Arnold Schoenberg. Alors, Arnold Schoenberg, donc comme vous l'avez dit, Daniel Cohen-Lévinas, en 1933, avec l'avènement d'Hitler, il est contraint de s'exiler rapidement parce que inscrit très vite sur la liste noire des nazis. Et donc, vous l'avez dit, il passe par Paris où il se reconvertit au judaïsme, à l'Union libérale israélite. Mais il ne va pas rester à Paris. En fait, il va très rapidement donc partir pour les États-Unis, où il va d'abord s'installer dans un premier temps à New York, puis Boston, avant de s'installer définitivement à Los Angeles, où il enseigne la musique, je crois, jusqu'en 1944 à l'Université de Californie. Et cette période américaine et ce retour au judaïsme se concrétise par une œuvre importante, symboliquement, en tout cas sans doute pour Schoenberg, puisqu'à l'été 38, le rabbin Jacob Sonderling de Los Angeles lui demande de composer un Kol Nidre. Le Kol Nidre, c'est la mélodie vraiment emblématique de Yom Kippour. Comme vous le savez sans doute, chez les Ashkenazes, en fait, c'est très particulier. Il y a une mélodie, c'est quelque chose de rarissime dans la musique juive, une seule mélodie pour quasiment toutes les traditions ashkenazes. Et donc, Schoenberg va entreprendre ce travail le 1er août et va travailler assez rapidement, puisque le 22 septembre, c'est fini. Et il écrit donc cette œuvre qui est courte, qui dure 6 minutes, mais extrêmement dense, écrite pour récitant, chœur, mixte et orchestre, et qui est donc donnée le 4 octobre 1938, un mois précisément après la nuit de cristal, donc c'est tout un symbole. Et il a fait quelques aménagements dans le texte, parce qu'il y avait des choses qui le choquaient, notamment sur le fait qu'on pouvait interpréter ce texte comme étant une sorte d'absolution sur les engagements qu'on n'avait pas pu tenir, et pour Schoenberg, il jugeait ça totalement immoral. Donc il a procédé à quelques changements, mais surtout ce qui l'a intéressé, et c'est la vérité, c'est que le Kol Nidre est constitué d'un certain nombre de motifs, de mélismes, qui se ressemblent vraiment les uns et les autres, et il les a vraiment traités selon le principe de la variation. Alors je vous propose d'écouter le début de ce Kol Nidre et puis sa fin, parce que j'ai fait un petit montage, je ne sais pas si c'est permis, je me suis permis de le faire quand même pour qu'on entende quand même,
oui, bien sûr.
On entend textuellement le thème du Kol Nidre, donc le Kol Nidre.
Kol Nidre, all vows, oaths, promises and plights of any kind, wherewith we pledged ourselves counter to our inherited faith in God. Who is one, everlasting, unseen, unfathomable? We declare these null and void. We repent that these obligations have estranged us from the sacred task we were chosen for. We shall strive from this day of atonement till the next to avoid such and similar obligations, so that the Yom Kippur to follow may come to us for good.
Nous venons d'entendre un extrait donc du Col Nidré de Schoenberg, le début et la fin, interprété ici par l'Orchestre Philharmonique de Robert Kraft avec la chorale Simon Joly. Alors, Daniel Cohen-Lévinas, on n'est plus du tout dans le même langage musical.
Non, on est en 1938. On comprend bien à ce moment-là les mots de Schoenberg. Hein. Je suis un conservateur que l'on a obligé à devenir révolutionnaire. Hein. Et on comprend bien, au fond, qu'il soit un peu comme que Moïse soit sa figure d'identification. Hein. Il ne rentre pas en terre promise, Schoenberg, c'est-à-dire, au fond, il est celui grâce à qui ou à cause de qui, tout dépend de quel côté on se place. L'histoire de la musique occidentale aura vécu une mutation absolument sans précédent, mais en même temps, il a... En ce sens-là, c'est un post-romantique, c'est vraiment un compositeur de la tradition. Il est également taraudé par cette forme de nostalgie, de retour, hein, donc double retour. Retour à la terre de ses pères, retour à la spiritualité de ses ancêtres, à son identité juive pleinement assumée, que ce soit sur le plan politique, historique, esthétique, éthique, morale, et retour à la tradition de ses pères, où là, de manière tout à fait étonnante, un peu kitsch même à certains endroits, de manière idiosyncrasique, hein, on a quelques traces hein, de la tonalité, même de manière très fonctionnelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il est question d'entrer dans, je crois, le vœu secret de Schoenberg, c'est-à-dire d'aller vers une nouvelle liturgie juive, mais débarrassée de toute sa dimension folklorique.
Alors, on va parler maintenant d'une autre œuvre importante, très importante. Il s'agit du Survivant de Varsovie, œuvre écrite en 1947, donc après la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur cette œuvre, évidemment, mais là, le temps nous manque, donc vraiment 2-3 minutes. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous resituer le contexte de composition du Survivant de Varsovie?
Alors, le contexte de composition, il est tardif. Hein. Il date de 1947. Alors, on avait eu Aude à Napoléon en 1942, qui est une sorte de comment dirais-je, sur le texte de Byron, une attaque très claire à Hitler, hein, c'est-à-dire non pas une parodie, mais un travail sur la manière dont la menace barbare via Hitler pèse sur l'Europe. Mais en 1942. Schoenberg ignorait tout des massacres. Il ignorait tout de ce qui s'était passé dans les camps de concentration. Donc, je trouve que cet épisode-là, son identité juive se réveille à son identité juive, s'opère très rapidement. Mais, je dirais, cette prise de conscience que quelque chose que l'Europe a basculé définitivement dans l'horreur, c'est un peu comme Théodore Herzl qui envoyait spécial en France pour suivre les événements de Dreyfus, assiste, et là c'est un révélateur, assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus qui dit « je suis innocent ». Et Théodore Herzl dit « je savais qu'il était innocent ». Et à partir de là, il va changer de décor et il va dire « il faut un abri ». Pour les Juifs, parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Herzl est mort quand même en 1904, hein, donc avant la Première Guerre mondiale. Et là, si vous voulez, c'est le récit d'un survivant de l'insurrection du ghetto de Varsovie qui va raconter hein, ce qui s'est passé dans le ghetto de Varsovie. Et à ce moment-là, on va avoir un voile qui va se déchirer, c'est-à-dire un espoir définitivement défait une fois pour toutes, et Schoenberg va se sentir un devoir. Cette fois, on passe un cap, c'est un devoir de témoignage. Schoenberg veut témoigner en tant que compositeur et pas en tant qu'historien, hein, ce qui s'est passé pour les Juifs dans cette Europe qui a dépassé la question de la crise, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé véritablement. Et il va mettre en musique ce récit de ce survivant de Varsovie. C'est un narrateur qui parle anglais. Ça se passe dans un camp de concentration. Il y a la langue allemande avec l'officier nazi hein, qui harcèle, qui tue les juifs. Et il y a ce cœur extraordinaire d'homme qui, dans cette accélération, c'est un moment magnifique. On a ce décompte des juifs où les nazis se demandent combien reste-t-il de juifs qui vont rentrer dans les chambres à gaz. Et à partir de ce moment-là, on a cet élan avec le schéma Israël à l'unisson chanté par un cœur d'homme.
Alors, on l'entend tout de suite, donc un survivant de Varsovie, donc la fin de ce cœur avec le récitant, puis le cœur d'homme qui chante le schéma Israël.
I heard the sergeant shout, "Abseilen!" They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Rasche! Nochmals wieder anfangen! Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere. Abzählen! They began again. First slowly. One, two, three, four. Became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they start singing with my friend.
La fin du survivant de Varsovie, une œuvre majeure, je pense, de Schoenberg. D'ailleurs, Milan Kundera disait de cette œuvre, il demandait, mais il s'indignait qu'on puisse oublier cette œuvre. Il disait, on se bat pour qu'on n'oublie pas les assassins, et Schoenberg, on l'a oublié. Et pourtant, cette œuvre, c'est peut-être pour moi l'œuvre la plus importante qui souligne le génocide des Juifs durant la guerre et qui leur est dédiée. Alors, comme vous l'avez dit, à la fin de sa vie, Schoenberg va être très enthousiaste, notamment lors de la création de l'État d'Israël en 1948. Il va composer d'ailleurs pour la circonstance Dreimal Tausend Jahre, qui veut dire trois fois mille ans.
Trois fois mille ans.
Et une cantate qui va rester inachevée, malheureusement, qui s'appelle Israel Exists
Encore
Again.
Encore un inachèvement. Oui.
Voilà, Israël existe à nouveau. Et sa dernière œuvre achevée, signalons-le, c'est un psaume.
130, oui.
Donc c'est le psaume des profondis, le psaume donc Mima Makim en hébreu, Shir Mamalot Mima Makim, et donc qui sera donné donc en 1950. C'est une courte œuvre que nous n'aurons malheureusement pas le temps d'entendre. On va devoir malheureusement se quitter. Un dernier mot peut-être, mais alors c'est vraiment un mot.
Non, peut-être juste de souligner, mais je pense que les auditeurs l'auront compris, hein, que sa dernière œuvre est consacrée vraiment à un texte On ne peut pas faire plus, comment dirais-je, plus expressif sur le plan de son adhésion au judaïsme, qu'il soit religieux ou agnostique, que l'hommage rendu à ce psaume.
Eh bien, écoutez, Daniel Cohen-Lévinas, infiniment merci pour votre présence ce soir dans ce studio. Nous vous retrouverons avec plaisir pour votre table ronde du 7 décembre 2016 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à 19h30. Si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que toutes les précédentes, rendez-vous sur le site de l'Institut européen des musiques juives, www.iemj.org, ainsi que sur judaïkfm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey.